Radio Starbit.
Morning edition from NPR
News.
France Inter. Le 18-20.
La machine donne des consignes comme ne pas dissimuler ses sourcils, ne pas se mettre en contre-jour. Puis on passe à la vérification du numéro de téléphone portable et des données du client.
Souriez face à la caméra qui reconnaît votre visage, qui le reconnaîtra entre mille et même entre des millions, la reconnaissance faciale en Chine. C'est une affaire qui marche, on s'en sert déjà dans de multiples endroits, vous le verrez. Mais ce type de technologie dans un pays qui n'est pas une démocratie, ça peut vouloir dire quoi? Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde à 18h40. Juste avant, sous les radars, et Florence Paracolos avec un homme qui voue sa fortune à la destitution de Trump. Et des marins qui boivent à la santé de Jacques Brel, ils veulent restaurer le bateau qui l'emmenait aux Marquises. 18h50, tiens, puisqu'on parle de bateau, le feuilleton écolo de Sandy Dauphin avec un homme qui s'est mis en tête, tenez-vous bien, de faire des porte-containers à voile. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers. Il a écouté le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, il l'a trouvé formidable, évidemment, vrai constat, etc. Oui, mais, et il y a, vous allez le voir, un gros mais derrière. Mais avant, c'est au Mali que nous allons, où la France et l'ONU sont victimes d'attaques régulière. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Cette attaque, on en parlait d'ailleurs hier dans Un jour dans le monde, n'a réellement pas fait les gros titres de l'actualité parce que dans le même temps, c'est la Syrie qui nous occupait toute la journée. Mais peut-être ne vous a-t-il pas échappé que l'ONU et la France ont fait l'objet samedi donc d'une attaque très violente dans ce qu'on appelle Supercamp. C'est à Tombouctou, au Mali. Attaque très violente parce qu'elle a tué un soldat des Nations Unies, parce qu'elle a blessé 7 militaires français. 4 heures d'assaut, des voitures déguisées en véhicules de l'ONU, un agresseur déguisé en casque bleu. Bonsoir François-Xavier Freland.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Spécialiste du Mali, vous avez longtemps été correspondant là-bas d'RFI et de France 24 notamment. La question qu'on a le droit de se poser ce soir, 5 ans après le début des opérations militaires au Mali, c'est de savoir si on a les deux pieds dans la glaise désormais. Je voudrais qu'on y aille pas à pas, François-Xavier Freland. D'abord, les attaques se multiplient ces derniers temps, ça c'est vrai, mais cette forme d'organisation-là, est-ce qu'elle dit quelque chose de particulier?
Oui, le mode opératoire est assez exceptionnel. Vous l'avez dit, des véhicules qui ont été maquillés avec des sigles de l'ONU. Tout ça rappelle d'autres événements, d'autres attaques, notamment en Afghanistan, en Irak. Et tout cela fait craindre, évidemment, qu'on ne soit plus face à des petits groupuscules qui, malgré tout, il y avait ACMI, Al-Qaïda Maghreb Islamique. Mais enfin, depuis l'intervention militaire franco-africaine de 2013, on va dire qu'ils avaient perdu un peu de force et qu'aujourd'hui, ils se regroupent à travers des djihadistes et des combattants qui peuvent arriver du Moyen-Orient.
On pensait surtout qu'ils étaient désorganisés, en fait, très divisés, très désorganisés. Est-ce que ça veut dire que c'est plus le cas ou pas?
À mon avis, ils le sont encore. C'est-à-dire que vous avez toujours deux failles. Hein. Mm-hmm. Vous avez ACMI et puis de l'autre, vous avez aussi Daesh, maintenant, qui est implanté dans le pays à travers le groupe État islamique pour le Grand Sahara, plus à l'est, hein, plus vers la frontière nigérienne et burkinabé. La région de Tombouctou, en général, c'est plutôt Al-Qaïda de tradition. On est dans la région proche de la Mauritanie, de l'Algérie. Et aujourd'hui, on peut peut-être quand même imaginer qu'il y a des échanges entre les groupes, les groupuscules, sachant que, comme il l'avait fait d'ailleurs en 2012, leur ennemi, c'est d'abord la France et les autorités maliennes.
Mais alors, on va revenir à ces groupes djihadistes. Est-ce que ça veut dire que le but, là, c'était quoi? C'était de prendre possession du camp, réellement, d'aller, de s'y retrancher? C'était ça le but du jeu ou pas?
Je pense plutôt que c'était de frapper. De victimes. Je pense que c'était encore de faire un coup médiatique, à un moment où la France était engagée ailleurs en Syrie, hein, dans une intervention, ça s'est passé le même jour,
le samedi,
dans une intervention militaire contre le régime de Damas. C'était rappeler à la France que sa première guerre, elle est ici, et qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, eh bien, petit à petit, les terroristes reprennent un petit peu du poil de la bête. Bamako a été plusieurs fois la cible d'attaque. Vous avez aujourd'hui le centre du pays, du côté de Mopti, qui est régulièrement attaqué, et puis tout ce nord qui reste encore une zone très difficile à contrôler, malgré Barkhane.
Parce que ça veut dire qu'effectivement, le nord, on savait que le nord était difficilement gérable, voire totalement ingérable. Ce qui est peut-être plus inquiétant cette fois, c'est de voir que les attaques se multiplient et descendent, en fait, au fur et à mesure.
Voilà. Alors, le problème, surtout, ce qu'on craint, c'est qu'on avait pensé à un moment à la libération de toute la zone du nord, que la population s'était levée contre les islamistes ou les djihadistes. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus que cette population se retourne à nouveau contre ces radicaux, contre ces terroristes, souvent par dépit, faute d'aide, faute de développement, faute bien de soutien de la part des autorités centrales.
Ça veut dire que ce qui avait été promis même par le gouvernement malien, c'est-à-dire parce que c'était ça effectivement même le démarrage des opérations djihadistes il y a 5 ans, là aussi la population à un moment était derrière eux pour ces raisons-là, ça veut dire que tout ce qui a été promis n'est pas venu, c'est-à-dire des infrastructures, c'est-à-dire des moyens, c'est-à-dire relever l'économie de ce nord qui est complètement exsangue en fait.
Voilà, alors on se mord la queue parce que vous savez qu'il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. Mmh. Et le problème du Nord, il est là, c'est que comment voulez-vous que n'importe quel investisseur aille faire des routes au nord du Mali, aille construire des structures quand vous savez que régulièrement, eh bien, il y a des otages, des rapts et puis des attaques sanglantes. Donc en fait, le gouvernement malien a bien du mal à apporter le développement au Nord. Il faut se rappeler que ça reste un pays relativement pauvre, certes aidé, mais avec des structures étatiques encore très fragiles, qui se remet à peine de la grave crise. Mmh. Il y avait eu un coup d'État en 2012, il faut le rappeler, qui se remet à peine de cette crise-là et qui, effectivement, a bien du mal à reprendre vie au nord de sa frontière, au nord de son pays.
Et alors vous le disiez, c'est nous qui sommes visés principalement. Est-ce que ça veut dire d'abord qu'on a crié victoire trop tôt? Je le citais tout à l'heure, on revoit François Hollande dire que c'était le plus beau jour de sa vie lorsque Tombouctou a été libéré. Il y a eu des moments comme ça. On a même cru qu'un processus politique était possible derrière. Est-ce qu'on s'est trompé, nous, la France, en fait?
Alors, on ne s'est pas trompé, sauf que on est face à une espèce de menace terroriste internationale. Là où ils disparaissent au Moyen-Orient, ils réapparaissent ailleurs. Le Sahel est évidemment une zone fragile de par son niveau de développement, de par son faible niveau d'éducation aussi. Hein, c'est beaucoup d'analphabétisme, beaucoup de populations qui se sont tournées vers un islam radical. Il faut rappeler que c'est un pays qui autrefois, j'y vais depuis 2002, et c'était un pays de d'islam tolérant. On appelait ça l'islam façon au Mali. Hein, c'était des gens qui allaient de temps en temps à la mosquée. On voyait très peu de femmes voilées dans les rues de Bamako. Les gens allaient danser. On l'a vu à travers les photos de Malik Sidi Bé. Aujourd'hui, et bien malheureusement, des imams qui ont été financés par les pays du Golfe ont distillé et bien un islam radical dans des zones où l'éducation avait reculé, notamment parce qu'on a dit tout à l'heure cette menace qui pèse aussi sur les maîtres et maîtresses d'école, hein, qui sont finalement les garants d'une éducation à l'occidentale et qui sont finalement l'un des premiers ennemis aussi de ces djihadistes. Donc petit à petit, cette population a été retournée et aujourd'hui et bien se retrouve manipulée par ces groupes.
Vous le disiez, il y a une présence d'Al-Qaïda, effectivement, il y a aussi une présence donc de l'État islamique. Est-ce que le fait que l'État islamique soit en perte de vitesse dans sa zone, pardon, je vais dire ça comme ça, sa zone de prédilection, la Syrie, l'Irak, est-ce que ça n'a pas du tout imputé sur ce qui se passe au Sahel?
Ah, bah, ce qui est sûr, c'est que y a plus que des rumeurs, c'est-à-dire qu'on a vu des allées et venues de combattants djihadistes arrivant du Proche-Orient, passant par la Libye, traverser ces frontières qui sont très friables, hein, du côté de l'Algérie, avec en plus, vous savez, des soupçons d'ambiguïté, hein, de la part des pays riverains, l'Algérie en particulier. Tous ces groupuscules sont en train de se réorganiser dans un pays qui est extrêmement grand, qui fait 2 fois la France, avec un désert pour la plupart. Et puis, je vous dis, ici et là, des populations pauvres qui sont prêtes, finalement, à accepter un peu d'argent, un peu de soutien pour jouer le jeu de ces combattants. Donc, pour avoir participé notamment à un convoi militaire du côté de l'Est, hein, vers Ménaka, on voyait bien que l'armée française, avec toute sa bonne volonté et parfois quand même du matériel moderne, avait bien du mal à quadriller le terrain. C'est immense.
C'est beaucoup trop grand.
C'est très grand. Et malheureusement, c'est peut-être là où il faudrait peut-être un peu modifier nos opérations militaires. C'est qu'on est peut-être trop dans un quadrillage humain, là où il faudrait davantage de moyens technologiques, plus de drones, plus de surveillance du désert, enfin de cette zone.
Dans le cahier des charges de Barkhane, il était question aussi de former les soldats maliens. On a l'impression là aussi qu'on n'a pas été bien loin, très honnêtement, là-dessus.
Là, c'est très compliqué, parce que l'armée malienne, d'abord, il faut se rappeler que c'est une armée, alors, pareil, en reconstruction, qui a été complètement décimée en 2012, hein, par les assauts d'abord des rebelles Touareg, hein, du MNLA, puis ensuite par les islamistes. C'est pas une armée, on va dire, d'hommes aguerris, l'armée malienne. Elle n'a jamais fait de grandes guerres. Ça restait une petite armée, même si elle avait eu, à une époque, une certaine... elle a vu des moyens. Mais ça reste une petite armée, effectivement, qui n'a pas la même expérience que des armées comme l'armée française, et qui, aujourd'hui, malgré quand même des formations, il y a des formations européennes régulières, on se sent encore un petit peu faible face à un ennemi qui la dépasse, en fait. Et Je dirais que c'est là où on voit aussi les failles et les faiblesses du dispositif du groupe G5 Sahel.
Alors voilà, j'allais vous emmener au G5 Sahel. J'ai presque envie de dire pourquoi faire, honnêtement, François-Xavier Frelon.
Le G5 Sahel, c'est 5 pays, deux qui ont de grandes armées, le Tchad et le Niger. Trois autres, le Burkina Faso qui est en train de se reconstruire, lui aussi, après le coup d'État, le changement politique qu'il y avait eu en 2015. Et le Mali qui est en pleine reconstruction et l'armée mauritanienne dont on pourrait se poser certaines questions, qui appartient quand même à une république islamique.
Donc je repose la question, effectivement, le but, on le voit tous, on l'a bien compris, mais au final, pour quel résultat, en tout cas au moment où on se parle?
Je crains que malheureusement l'armée française soit au Mali pour longtemps, même s'il y a des envies pour des raisons de budget de partir, et puis aussi parce que plus une armée étrangère reste dans un pays, et plus elle est vécue comme une armée d'occupation.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que déjà l'armée malienne, de toute façon, n'a pas bonne réputation, n'a pas bonne presse auprès des Maliens? Vous allez pouvoir nous confirmer ça. L'armée française, à quel moment, effectivement, sera-t-elle vue comme une armée d'occupation? À quel moment on commence à jeter des pierres sur les soldats français, honnêtement?
Alors, on commence, c'est sporadique. Je l'ai vu moi-même sur certains convois. Dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est-à-dire que je pense que dans la grande majorité, les Maliens sont contents d'avoir l'armée française. Et même dans le Nord, sachant que si elle part, ils savent très bien que ce sont les djihadistes qui récupéreront rapidement le terrain. Donc, on tient à cette armée, mais on la critique. Et puis, il y a une propagande. Il y a une propagande djihadiste très claire.
Et efficace, donc,
efficace.
Apparemment.
Ils jouent, eux aussi, des réseaux sociaux. Vous avez quand même, à Bamako, une espèce de frustration vis-à-vis de l'armée française, notamment à cause du problème du Nord, à cause du problème de Kidal, cette sécession volontaire voulue par les rebelles Touareg qui énervent les Maliens du Sud, qui sont, on va dire, les plus nombreux, et qui voient dans l'armée française une espèce d'armée parfois qui, on va dire, a rendu des services à ce séparatisme Touareg. Donc, vous avez une double critique, en fait. À la fois, cette armée d'occupation post-coloniale, qui est une critique qu'il faut prendre prendre en jeu, et puis cette critique surtout d'une armée qui n'a pas toujours, en tous les cas, cette France qui a parfois joué double jeu avec les séparatistes Touareg.
Si demain l'armée française s'en va, et j'ai presque envie de dire même si elle ne s'en va pas d'ailleurs, est-ce que le risque de refondre sur Tombouctou des djihadistes, il existe vraiment?
Ah bien sûr, c'est pour ça qu'il faut pas trop
refondre et s'y réinstaller.
Il faut pas trop taper sur l'armée française parce que elle fait le job en fait, tout simplement. Alors il faut aussi reconnaître que l'armée malienne fait ce qu'elle peut et elle est quand même présente sur le terrain, que c'est important. Mais il est clair que si demain l'armée française venait à partir, là je crains le pire dans un pays qui n'a aucun moyen de faire front face à une menace terroriste internationale. On n'est plus dans un terrorisme local.
François-Xavier Frelon, il y a une autre donnée qui ne tardera pas à arriver, ce sont les élections. C'est très vite, c'est dans deux mois, c'est le 20. C'est dans deux mois,
24
c'est ça
juillet.
24 juillet, 29 juillet, c'est 29 ça, 29 juillet. Qui vont se dérouler dans quelles conditions? Et surtout, encore une fois, pour amener quoi? On a l'impression d'un pays totalement éclaté, rééclaté entre ces différentes ethnies, une relance économique qui n'a pas eu lieu. Dans quelles conditions vont se tenir ces élections-là?
Alors, en plus, sachant qu'au Mali, de tradition, il y a à peu près 30% des gens qui vont voter. Donc, ça n'a jamais été un pays où il y a eu un grand taux de participation. Il faut effectivement rappeler qu'au Nord, eh bien, il n'y a pas encore des locaux pour aller voter. C'est toute une organisation qui risque d'être très compliquée dans un pays aussi miné, c'est le cas de le dire, notamment du côté de Kidal, dans les grandes villes comme Tombouctou, où on l'a dit, eh bien, il y a ces groupuscules avec ces moyens qui sont capables évidemment d'entraver le vote. Ça va être très compliqué, sachant qu'en plus les Maliens sont un petit peu fatigués de cette vieille classe politique malienne. Ibeka, l'actuel président, Ibrahim Boubacar Keïta, représentant finalement une espèce d'élite un petit peu loin des réalités, trop dans son palais parfois, et surtout avec de grosses critiques concernant la corruption, la malgouvernance. Donc c'est un peuple qui est un petit peu déçu, dégoûté parfois par son élite politique, qui votera peut-être finalement, on va dire, pour un vote de confiance à Ibeka, mais par dépit en fait, parce que faute d'autre chose. Donc c'est un pays qui est effectivement, vous l'avez dit, coupé en deux, en plein doute, ce qui est pas très bon pour l'avenir, sachant que effectivement, il faudrait déjà que l'État se reconstruise et soit accepté par la population pour pouvoir apporter la sécurité.
François-Xavier Frelon, merci beaucoup. Votre dernier livre, François-Xavier, je rappelle, s'appelle Mali au-delà du djihad, c'est publié chez Anna Mossa. Et merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, au revoir.
France Inter, Fabienne Saint-Esse, Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde en Chine, où la reconnaissance faciale s'implante très vite. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans un pays qui ne proteste pas, puisqu'il n'a pas le droit? Ce sera le reportage de ce mardi. Florence Paracoulos nous donne des nouvelles du yacht de Jacques Brel, que les marins d'Anvers veulent remettre à flot. C'est celui qu'il avait emmené aux Marquises, figurez-vous. Le feuilleton écolo de Sandy Dauphin. Tiens, vous aussi, vous allez nous parler de bateaux, Sandy, mais à voile.
Oui, on va voir s'il y aura bientôt des porte-containers à voile. En tout cas, le transport maritime, à son tour, promet enfin de réduire son empreinte carbone.
Allez, merci. À tout à l'heure. Le Monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous avez écouté le président Macron parler d'Europe et...
Ah, un bien beau discours ma foi, mais vous savez, c'est un peu comme en amour. Hein. Les mots comptent, mais les actes encore plus.
Allez, à tout de suite. Le tour de la planète se poursuit avec un détour par la Louisiane. Tiens, ce soir, voici Duran Jones and the Indications. Smile. Hey, hey.
Brother, what I've been doing to pass the time. Sorry, but the guilt that I can't say. Upon your chest, your arms are folded, with the bottle in your hand.
J'ai cru qu'il c'était zen, monsieur. Enfin voilà, il m'a un peu pris de court. Il s'appelle Duran Jones avec The Indications. Et ça s'appelle Smile, comme souriez, quoi, mon sang.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Florence Paracoulos. Florence, on commence avec un milliardaire californien qui est en croisade contre Donald Trump.
He's brought us to the brink of nuclear war. Obstructed justice at the FBI.
Il nous a menés au bord de la guerre nucléaire, il a fait obstruction à la justice, il a accepté de l'argent d'un gouvernement étranger. C'est un spot télé d'une minute diffusé sur les chaînes nationales et signé Tom Steyer. Sa fortune est évaluée à 1,6 milliard de dollars. Il l'a amassé dans la finance, il est démocrate et écolo. Il n'a qu'une obsession, la destitution de Donald Trump. Sa pétition Ni Twin Peach a réuni plus de 5 millions de signatures. Il fait campagne dans tout le pays, ici à Oakland, en terre démocrate. Je me souviens de la destitution de Richard Nixon. Et je sais que le chemin est long avant que les Américains prennent conscience que leur président est sans foi ni loi, téméraire et dangereux. Ce chemin, on en a fait la moitié. Les choses avancent tous les jours.
And it can't just be Democrats.
Mais ça ne peut pas être la seule affaire des démocrates. Bah oui, parce que pour destituer un président, il faut la majorité de la Chambre et du Sénat, dominée par les Républicains. Parce que Tom Steyer se fait peu d'illusions sur le Parti démocrate, dont il est le premier donateur individuel, mais dont les ténors oscillent entre le mépris à son égard et la crainte. C'est la correspondante du Monde qui l'explique, si sa croisade a peu de chances d'aboutir, avec son fichier de 5 millions de signataires et sa notoriété grandissante. Les démocrates pourraient bien le trouver sur la route de leur prochaine primaire.
Tom Steyer, c'est l'Amérique donc. Quand Weibo fait son autocritique, le Twitter chinois a décidé de s'accorder un peu de souplesse avec la censure.
On en parlait hier de cette campagne de nettoyage de Weibo. Le réseau avait annoncé la suppression de tous les messages relatifs à l'homosexualité pour promouvoir un environnement clair et harmonieux selon les commandements du président Xi Jinping. Torrent de protestations, mots-clés « I'm gay, not a pervert ». Et ça a marché. Weibo annonce que la censure va se concentrer sur la pornographie, la violence et le gore, plus sur les contenus homosexuels. Et le réseau remercie ses utilisateurs pour leurs conseils et leurs suggestions dans un accès de bouffée démocratique auquel les patrons du web chinois nous avaient peu habitués.
Allez, enfin, dans le port de Zeebruges, il y a des marins qui rêvent, Florence.
Qui rêvent et qui travaillent à la restauration du bateau de Jacques Brel, celui-là même qui l'emporta vers la Polynésie en 1964.
Je suis parti parce que j'avais peur de devenir trop vite mort, trop vite vieux, trop vite... J'ai eu envie de partir chercher, et de partir physiquement à la recherche de quelque chose.
Quelque chose qu'il trouvera aux Marquises, mais qui ne le fera pas mourir moins vite. Hélas, son bateau, l'Ascoy 2, fut l'un des plus beaux yachts du monde. Il continuera sa vie après Brel, vers la Californie, vers les Fidji et cette plage de Nouvelle-Zélande où deux frères l'ont retrouvé échoué. Ils ont une histoire avec ce bateau parce que c'est leur famille à l'époque qui avait vendu les voiles à Brel. Ils vont donc tout faire pour ressusciter l'Ascoy 2. Ils s'y emploient depuis des années dans un hangar de Zeebruges dans le but de le sortir le 9 octobre prochain pour le 40e anniversaire de la mort de Brel. Et qui sait si un jour il n'y retournera pas.
Aux Marquises,
et nous aussi, on irait volontiers. Tiens, j'ai dit Anvers tout à l'heure, alors que c'était Zeebruges. Donc du coup...
Non, vous avez pas dit...
Non, j'avais dit Anvers. Ah d'accord. Donc on embrasse nos amis. Qu'est-ce qui me prend? Enfin, Zeebruges, et c'est bien Zeebruges, Florence. À demain. Merci beaucoup.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo, Beyrouth, France Inter.
Bonsoir Fabienne.
Et c'est en Chine, bonsoir Dominique André, que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. En Chine, bien droit devant la caméra, s'il vous plaît, il y en a déjà 147 millions partout dans le pays pour surveiller la population, bientôt 6 fois plus. Et Dominique, c'est ce que vous allez nous expliquer. Une partie de ces caméras est équipée d'un système de reconnaissance faciale. Quand Big Brother vous regarde en Chine, eh bien tout ce que vous pouvez faire, c'est montrer votre meilleur profil.
À la China Merchants Bank, dans l'ouest de Pékin, les clients n'ont pas besoin de leur carte bancaire pour retirer de l'argent. Il suffit de montrer son visage à la caméra. Meng Xin, l'une des directrices de cette banque, présente fièrement la machine qui permet d'effectuer plusieurs opérations bancaires grâce à la reconnaissance faciale.
Ce distributeur de billets dispose d'une caméra spéciale qui permet de reconnaître un visage. Il faut d'abord appuyer sur la touche retrait avec la reconnaissance faciale. Ensuite, la caméra scanne automatiquement le visage. La machine donne des consignes comme ne pas dissimuler ses sourcils, ne pas se mettre en contre-jour. Puis on passe à la vérification du numéro de téléphone portable et des données du client qui avaient été enregistrées au moment d'ouvrir le compte bancaire. Le traitement se fait très rapidement. Voilà, maintenant le billet est sorti, ça prend environ de 10 à 15 secondes. C'est un peu plus rapide que les autres systèmes de retrait d'argent. Le client gagne du temps. Mais le plus intéressant, c'est la sécurité. On n'a plus besoin de la carte bancaire.
La banque a été l'une des premières en Chine à montrer ce système de reconnaissance faciale pour des opérations bancaires. C'était en 2015, lors de l'exposition internationale sur la finance à Shanghai. Aujourd'hui, des villes comme Pékin, Canton ou Shenzhen, la fameuse Silicon Valley chinoise, dans le sud, sont équipées de machines à reconnaissance faciale. La China Merchants Bank a plus de 800 distributeurs dans 106 villes en Chine. L'objectif, c'est 12 000 distributeurs. Et si on a donné à la banque une photo sur laquelle on est plus jeune, ce qui peut parfois arriver, la reconnaissance faciale fonctionne sans aucun souci, affirme une autre directrice de la banque, Li Ping.
La machine reconnaît un visage en analysant le placement des traits faciaux ainsi que l'angle et les lignes du visage. Par exemple, à l'œil nu, on ne distingue pas certains jumeaux, mais l'appareil en est capable. On peut identifier avec une haute précision une personne, même après une opération de chirurgie esthétique.
L'une des stars de la reconnaissance faciale, c'est la société Face++. Dans l'ouest de Pékin, Xie Yinan, l'un des fondateurs, dirige aujourd'hui presque 1000 employés. Depuis 2 ans, la société est montée en puissance. Xie Yinan rentre dans son entreprise sans badge. Son visage est automatiquement scanné et la porte s'ouvre.
La reconnaissance faciale peut être utilisée à des fins multiples. Elle permet à un client chinois d'accéder à un compte qui lui permet d'ouvrir un compte bancaire, mais aussi de faire une inscription à l'école ou de retirer sa pension de retraite. La deuxième utilisation, c'est pour la sécurité publique. Les données des criminels en fuite, des terroristes ou des gens dangereux sont enregistrées dans le fichier national. Et si un criminel passe devant une caméra reconnaissance faciale, nous pouvons le localiser en une seconde. Notre technologie est une arme secrète.
Bonjour, bienvenue dans l'émission. Dans le programme d'aujourd'hui, on va vous parler de Made in China 2025. La mise en place de la stratégie Made in China 2025 est d'améliorer la qualité de nos productions. On va intensifier nos efforts pour promouvoir le big data, les ordinateurs cloud, l'internet et l'utilisation de hautes technologies.
Quelles implications dans un pays qui n'est pas un état de droit ? C'est ce qui inquiète Nicolas Béclin, directeur régional de l'Organisation de défense des droits humains Amnesty International. Il est basé à Hong Kong.
Le ministère de la Sécurité publique est en train de monter une base de données gigantesque de reconnaissance faciale de plus d'un milliard de personnes qui permettra donc un suivi quasiment en temps réel des déplacements d'un citoyen. C'est-à-dire que où que soit la personne, il y aura une base de données centrale où on pourrait savoir où elle se trouve parce que pour prendre le train, pour prendre le métro, pour rentrer dans un building, pour payer dans un restaurant, pour retirer de l'argent à la banque, l'identification se fera par reconnaissance faciale. Il y a aussi un nombre très important de caméras de surveillance qui quadrillent les villes, les routes, les aéroports et même dans certains cas la campagne dans les zones que le gouvernement juge sensibles comme les zones ethniques tibétaines, ouïghours, etc.
Gain de temps, facilité, la technologie de la reconnaissance faciale a aussi des avantages. Mais en Chine, il n'existe aucune plateforme pour pouvoir donner son avis sur l'équilibre entre sécurité et respect de la vie privée. Souriez ou ne souriez pas, de toute façon, vous êtes filmé et maintenant identifié.
Et c'est Dominique André qui signait ce reportage depuis Pékin pour Un jour dans le monde. Voici Liaï Naïm
New Soul sur France Inter.
I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
Soul sur France Inter. Voici Sandy Dauphin.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Sintès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Sandy Dauphin chargé de refroidir la planète toutes les semaines avec du vent dans les voiles. Ce soir, les milliers de porte-containers qui sillonnent les océans vont devoir faire un effort pour moins polluer. Sandy, le transport maritime à lui seul, c'est quand même 3% des émissions de CO2 de la planète. Donc c'est beaucoup. L'Organisation Maritime Internationale promet de diviser par deux ses émissions d'ici à 2050. Mais plus fort encore, cette idée folle, et si on faisait des porte-containers à voile?
Eh oui, tracté par une immense voile de kitesurf, comme un cerf-volant. C'est le projet un peu fou de l'ancien navigateur Yves Parlier. Lors du Vendée Globe en 2001, souvenez-vous, le skipper avait réussi à réparer son mât. Il avait bricolé un gréement de fortune pour terminer la course. Eh bien, le navigateur a toujours l'âme d'un géo-trouve-tout. Il développe un nouveau système de propulsion pour les bateaux. Une innovation qui revient aux sources, se servir du vent pour avancer sur l'eau. Yves Parlier, président de Beyond the Sea.
On imagine des ailes de 1600 m² reliées sur le bateau à des treuils qui sont eux-mêmes commandés par un ordinateur. On espère faire gagner aujourd'hui 20% d'économie de carburant. Pour nous, c'est qu'un palier. On espère à l'avenir pouvoir participer à la conception de bateaux qui auront été vraiment prévus pour la traction par kite et de pouvoir envoyer donc des kites de plus grande dimension encore.
le concept.
1600 mètres carrés de voile. Si vous savez calculer, parce que moi je n'ai pas de cerveau, dites-nous si c'est aussi grand que la façade de la maison de la radio ou quelque chose de ce genre-là en fait. Moi ça m'intéresse.
Hashtag.
Allez-y.
Alors le concept d'Yves Parly intéresse le géant français CMA-CGM, troisième flotte de porte-containers au monde, partenaire du projet. Pour verdir sa flotte, la compagnie mise également sur le gaz naturel liquéfié comme carburant. 9 bateaux vont être équipés avec des moteurs EGNL. À terme, l'OCDE dit qu'il faut faire naviguer des bateaux avec des biocarburants, de l'hydrogène ou encore de l'ammoniac. Et pourquoi pas, pour les petites distances, des bateaux électriques. La Finlande vient d'ailleurs d'inaugurer son premier ferry électrique. Alors ça ressemble à une sorte de bac qui relie deux rives sur une distance très courte, pour l'instant 1,5 km.
Voilà, très court pour l'instant. En tout cas, des bateaux qui crachent un peu moins de fumée noire à l'avenir, parce que c'est mauvais pour le climat. Évidemment, c'est pas bon pour nos poumons non plus.
Et oui, parce que la majorité des bateaux utilisent encore du fioul lourd. Or, ce carburant est très polluant. Il émet 3500 fois plus de soufre qu'un diesel normal d'une voiture. La marine marchande est sommée de faire mieux. Les armateurs ont obligation de réduire les taux de soufre dans leur carburant de 3,5% à 0,5% à l'horizon 2020.
Et donc le transport maritime, Sandy, accepte enfin de faire des efforts pour être moins polluant.
Et oui, souvenez-vous de la COP21 avec l'aviation civile. Le transport maritime était l'un des rares secteurs à échapper à l'accord de Paris sur le climat. Depuis, le secteur aérien s'est rattrapé. Il s'est fixé des obligations pour réduire ses émissions de CO2. C'est au tour du transport maritime, après un petit rappel à l'ordre de l'Europe. L'Organisation maritime internationale a adopté un texte vendredi où elle s'engage à réduire, on l'en parlait, de moitié ses émissions de CO2 en 2050. Seuls 3 pays s'y sont opposés. Devinez ?
Ben, les États-Unis.
Voilà, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Brésil.
Et de façon assez étonnante, d'ailleurs, le rôle des îles Marshall a été déterminant pour arriver jusqu'à cet accord. Les îles Marshall, c'est un tout petit confetti, en fait, mais grand Manitou au sein de l'Organisation Maritime Internationale.
Et oui, parce que c'est l'un des 5 pays où il y a le plus d'immatriculation de bateaux. Autant dire que sa voix compte au sein de cette organisation internationale. Les îles Marshall, cataloguées championnes du pavillon de complaisance, sont aussi l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Et pendant des années, le gouvernement local a laissé ses armateurs gérer les négociations au sein de l'Organisation maritime internationale. L'attitude des îles Marshall a radicalement changé après l'accord de Paris sur le climat. Explication de Feg Abbasoff de l'ONG Transport et Environnement.
En 2015, les choses ont changé. Les ONG, nous avons réussi à convaincre le gouvernement des îles Marshall de siéger au sein de l'Organisation maritime internationale. Pour que ce soit le gouvernement qui représente le pays plutôt que l'industrie maritime qui parle en son nom. À partir de là, le gouvernement a repris la main sur les négociations climatiques. Il a dû faire un choix difficile entre les intérêts économiques et la survie de l'archipel. Il a choisi la survie.
Et voilà comment les îles Marshall sont devenues les champions ou les championnes, je sais pas trop, du climat.
Les championnes.
Voilà, on va dire championnes. Le pays est donc à la tête d'une coalition d'une quarantaine d'États, dont la France, qui veulent décarboner le transport maritime à l'horizon 2050.
Eh ben, merci beaucoup, Sandy Dauphin. ICO pour les containers. Donc, la réponse est là, 40 fois 40. Merci Twitter. Et 40, est-ce que c'est assez haut? Est-ce que c'est aussi haut que la hauteur de la maison de la radio? Ben, allez mesurer, puis vous reviendrez
après.
Je reviens
tout à l'heure.
Allez, merci beaucoup.
Le 18-20. Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, Emmanuel Macron était ce matin devant le Parlement de Strasbourg. Il a plaidé pour la relance économique de l'Europe, la relance de l'Europe d'ailleurs tout court une nouvelle fois. Et dans votre monde à l'envers, vous nous dites ce soir que le discours était ma foi plutôt séduisant, que c'était bien ficelé tout ça, mais à quoi bon poser un bon diagnostic si le remède, lui, ne suit pas?
D'abord, vous savez qu'on en est déjà au numéro 3. Il y a eu la Sorbonne à Paris, la PNICS à Athènes, et voici donc le nouveau plaidoyer pro-européen d'Emmanuel Macron. Le troisième en 12 mois, jamais 203 donc. Donc, sur la forme, en effet, rien à dire. Le discours est vibrant. Le président français est intimement pro-européen. On ne peut pas lui enlever ça. Et sur le fond, le diagnostic porté sur l'état de l'Union européenne est pertinent, une bonne copie de philosophie et de sciences politiques. L'Europe, dit en substance Emmanuel Macron, est traversée par une sorte de guerre civile interne. Une guerre civile, ce sont ces mots, où la démocratie libérale est menacée par la fascination croissante pour les pouvoirs forts. Regardez la Hongrie ou la Pologne, par exemple, le constat est juste. Il ajoute, il faut entendre la colère des peuples, il y a un risque de repli nationaliste, là encore, constat indiscutable partout en Europe. Il appelle enfin à ne pas avoir la mémoire courte, je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules qui aura oublié son passé, sous sous-entendu, souvenons-nous des ravages du nationalisme dans l'histoire. En résumé, les valeurs démocratiques de l'Europe sont aujourd'hui menacées. Il faut être ambitieux pour les défendre. Entre nous, qui dirait le contraire. Donc, bref, va pour le diagnostic, mais ce qui compte, c'est le remède, et là, on est un peu sur sa fin.
Alors, il y a quand même quelques idées concrètes, non, qui ont été jetées sur la table par Emmanuel Macron.
Quelques-unes, c'est vrai. La plus nouvelle, c'est l'idée d'une aide européenne pour les collectivités locales qui accueille des réfugiés. Ça, c'est un projet concret qui peut contribuer à dépassionner un débat largement instrumentalisé politiquement et très empoisonné. Rappelons qu'en 3 ans, l'Europe a fait face à près de 3 millions de demandes d'asile. Du concret aussi, avec l'idée d'une taxe aux frontières de l'Europe pour le dioxyde de carbone. Ça permettrait de favoriser la transition vers les énergies propres. Intéressant enfin le lancement de ces consultations citoyennes sur l'Europe pour faire remonter des propositions à condition quand même que ça ne devienne pas une sorte de machin abstrait, surtout que les citoyens impliqués n'aient pas l'impression d'être des cache-sexes pour dissimuler l'absence de décision politique, parce que voilà le sujet clé. Évidemment que l'Europe a besoin de projets concrets, mais elle a aussi besoin d'un élan, d'un projet, d'une envie. Et là, on attend toujours.
Et donc ça, c'est la fameuse tirade du général de Gaulle. L'Europe, 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 pas la peine de sauter sur son siège comme un cabri. Sautons moins, faisons plus, vous
dites.
Autrement
dit, oui, c'est ça. On n'attend pas d'Emmanuel Macron une capacité à dresser un diagnostic de bon étudiant de Sciences Po, mais davantage une aptitude à entraîner nos voisins européens pour redonner un vrai projet à l'Union. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une politique commune sur l'immigration et l'asile, une harmonisation fiscale, un vrai budget européen commun et la mise en place d'une véritable politique sociale pour les plus défavorisés. C'est la seule solution pour que l'Union cesse d'être perçue comme un outil au profit des plus riches et qui nuit aux plus démunis. Ça veut dire aussi dépasser les petits calculs nationaux au Parlement européen, les petits arrangements entre amis à la Commission. Alors là, il y a du boulot. Pour preuve, le refus du Parlement d'instituer des listes transnationales pour les élections européennes de l'an prochain, c'était pourtant l'opportunité de susciter enfin chez les électeurs un raisonnement qui dépasse les frontières. Pour preuve encore, les combines, il n'y a pas d'autre mot, qui ont conduit à la nomination récente de l'Allemand Martin Selmayr comme secrétaire général de la Commission, une procédure opaque qui envoie un mauvais signal sur la démocratie en Europe. Sur tous ces sujets, il n'y aura pas d'électrochoc sans que Berlin soit de la partie. Ça tombe bien, après-demain jeudi, Emmanuel Macron passe la moitié de sa journée à discuter avec Angela Merkel. Est-ce qu'il est capable de convaincre la chancelière d'appuyer sur l'accélérateur? C'est la question, parce que sinon, si l'Europe n'est pas capable de changer de braquet, alors la guerre civile interne, les replis nationalistes risquent de s'accroître. Donc dans ce cas-là, le diplômé de sciences politiques Emmanuel Macron aura eu raison dans son diagnostic, mais le dirigeant politique, lui, il aura perdu.
Jean-Marc Four et le Monde à l'envers, merci beaucoup Jean-Marc. On se retrouve demain, le 18-20 de France Inter. Continue avec le journal et aussi avec le téléphone sonne. Et ce sera vous, Stéphane Leneuf, est-ce que vous êtes par là hein?
Oui, absolument. Vous m'entendez, Fabien?
Mais je vous entends très bien. Bonsoir Stéphane. Spécial Europe, donc, pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Marc à l'instant, à Strasbourg au Parlement, après ce fameux discours d'Emmanuel Macron.
Absolument. Et j'aurai donc 4 invités autour de la table, les présidents et vice-présidents des principaux groupes ici du Parlement européen. Et puis on décryptera évidemment ce discours. Effectivement, Emmanuel Macron, qui a été bien accueilli par le groupe libéral, le groupe ADLE, mais on va le voir avec les autres groupes, et bien, ça c'est pas très très bien passé finalement. Cette volonté de relancer le projet européen, mais il se heurte effectivement à beaucoup d'obstacles. Et on va décrypter tout ça avec mes invités à partir de 19h20 et surtout poser vos questions, bien sûr, un numéro, le 01 45 24 7000. À tout à l'heure, Fabienne.
Tout à l'heure, Stéphane.